Jeudi 3 octobre 2019 se tenait la journée d'études Les femmes dans le jazz d'hier à aujourd'hui. État des lieux, perspectives de recherche. Cette journée d'études était organisée par le laboratoire ICD de l'Université de Tours. Un événement organisé par Vincent Cotreau, département de musique et musicologie, modéré par Hélène Morel-Indard.
La place des femmes, ou plutôt les femmes dans le jazz d'hier à aujourd'hui. C'est peu dire que le sujet de cette journée rentre en résonance avec notre temps. En témoigne la présence ici d'étudiants, bien sûr, venus nourrir leur curiosité, mais également de professionnels de la musique, venus parfois de loin, pour y assister, ce dont je les remercie, sans les citer. En témoigne de cette actualité du sujet, en témoigne certaines collisions de dates, par exemple la restitution la semaine dernière au ministère de la Culture d'une étude nationale portant sur la représentation femmes-hommes dans le jazz et les musiques improvisées, portant sur les données de 2018, sur lesquelles je reviendrai rapidement tout à l'heure. Plus près de nous encore, jeudi dernier, était présentée au Petit Faucheux la saison qui s'ouvre. Le Petit Faucheux, soit dit sans chauvinisme, l'un des lieux phares de la diffusion du jazz et des musiques improvisées à l'échelle nationale et européenne. L'une des rares salles de jazz ou de musique dites actuelles à être dirigée par une femme, Françoise Dupin. La prochaine artiste associée en résidence au Petit Faucheux en 2021 sera la flûtiste Sylvaine Hélary. Voilà donc une collision, encore une fois, d'actualité. Résonance de cette journée avec notre temps si on observe également la recrudescence d'initiatives à forte visibilité, telles que la programmation des festivals de jazz. Festival de jazz comme Parfum de jazz dans la Drôme provençale, qui ne programme depuis l'année dernière que des groupes dirigés par des femmes. Citons encore les festivals Women in Jazz qui se multiplient, comme celui de Halle en Allemagne, qui proposera sa 15e édition en 2020, celui de Washington, de Göteborg, de Sydney, Melbourne, Knoxville, Seattle, etc. Dans la dernière livraison de Jazz Magazine, la programmation du prochain festival Jazz sur scène est intitulée « Vers la parité ?» Je cite « Un signe des temps, la présence féminine ne cesse de s'accentuer avec cette année les trios vocales Bloom, les chanteuses Lou Tavano, Leila Martial, la violoniste Olive Perrusson, la flûtiste Ludivine Isambourg, la clarinettiste Elodie Pasquier, les pianistes Karine Bonnefoy, Leila Olivesi, les batteuses Lada Obradovic et Julie Sori. » Résonance avec notre temps, encore l'engagement d'un festival comme le New York City Winter Jazz Fest à parvenir à l'égalité de genre d'ici 2022, ou encore la présence d'une femme depuis 2017 à la direction de l'un des plus anciens festivals allemands, le Berlin Jazz Fest. La liste pourrait s'allonger. Quelque chose est évidemment en train de changer, bien au-delà du microcosme du jazz. Impossible, évidemment, de ne pas voir une réalité et un ensemble de mutations apparaître dans les mentalités comme dans l'organisation sociale. Une réalité parfois difficile à vivre quand, par exemple, l'injonction de parité vient d'en haut et se heurte à des réalités comme, pour ma part, j'ai pu vivre deux exemples très récemment, à la fois pour mon remplacement à la présidence d'un concours national pour lequel je devais être remplacé par une professeure femme et la difficulté se posait en termes de vivier et de disponibilité d'un nombre de femmes réduit, ou encore la rareté criante des femmes au grade de professeur d'université qui entraîne de grosses difficultés parfois dans la constitution des jurys, et c'est un exemple aussi tout récent pour moi, notamment en ce qui concerne la recherche sur le jazz. Donc que personne ici ne se sente visé, mais ce problème est un problème d'actualité qui touche aussi les universitaires. Pour revenir à la place des femmes dans le jazz, si l'on continue de l'apercevoir en termes quantitatifs ou statistiques, les initiatives décrites précédemment et le constat que quelque chose change ne bouscule pas pour autant radicalement la réalité, prise dans son ensemble, et qui demeure bien une musique jouée, composée, dirigée, enregistrée et administrée, majoritairement par des hommes. Les résultats de l'étude citée plus haut, que j'ai noté au vol dans une nuée de chiffres, j'en donne quelques-uns, 85% d'hommes sur les scènes dans les programmes proposés par l'association AJC, le collectif de 80 festivals, clubs et scènes labellisés, 32% des grands ensembles sur 47 au total ne comptent et n'ont jamais compté aucune femme. À cette inégalité s'ajoute une très forte et bien connue disparité entre chanteuses et instrumentistes, de même qu'une très inégale représentation des femmes selon l'instrument considéré. Dans les ensembles programmés par AJC, 83% des chanteurs sont des chanteuses, alors que 12% des instrumentistes sont des femmes. Des chiffres qui concernent ou qui entraînent beaucoup d'autres disparités ou situations d'inégalité moins visibles. Par exemple, les musiciennes de jazz sont plus nombreuses que les hommes à déclarer l'enseignement comme activité principale et enseignent principalement le chant dans les écoles, quand bien même elles déclarent une activité d'instrumentiste professionnel. Il semble que les chiffres qui ont été donnés la semaine dernière ne modifient que très peu, même si la méthodologie diffère, ceux présentés en 2007 par Marie Buscato sur la base de données de 2004. Le chiffre d'environ 8% de femmes au sein des quelques 2000 musiciens de jazz considérés alors comme professionnels descend à moins de 4% si on ne considère que les femmes instrumentistes. Donc, vous comprendrez bien que je ne puisse pas, ici, dans l'introduction, préciser ces données, ni les compléter d'un certain nombre d'autres indicateurs d'une situation générale d'inégalité en matière d'entrée, de maintien des femmes dans l'activité professionnelle, de vie de famille ou encore de répartition dans les structures de diffusion, équipes techniques, artistiques ou administratives. À ce stade, on peut affirmer, d'une part, que les choses changent, mais qu'elles changent peu, mais qu'elles changent malgré tout, voire par exemple la féminisation avérée de certains instruments, comme la contrebasse ou la guitare, et qu'au-delà de l'évidente médiatisation de la question, dans un contexte nourri d'événements, de scandales, de débats, de mesures, concernant tous les domaines de l'organisation sociale, le monde du jazz a au moins acquis une capacité à identifier et nommer les enjeux liés à la place des femmes, ainsi qu'à produire une réflexion et des propositions face à la question des inégalités de genre. La présence de Marie Buscato communiquera tout à l'heure, que je remercie pour l'intérêt qu'elle a porté à cette initiative, témoigne de l'ancrage sociologique profond de la question qui nous occupe aujourd'hui. Toutefois, d'une part, notre collègue est venue aujourd'hui évoquer une recherche éloignée du terrain français, qu'elle présentera tout à l'heure. D'autre part, cette journée d'études, comme l'indique son titre et comme ambitionne son programme, ne se limitera ni au domaine français, ni à la question de la sous-représentation des femmes. J'ai souhaité que se croisent les approches et les disciplines, principalement l'histoire, la sociologie et la musicologie, l'analyse textuelle également, l'historiographie, pour provoquer une réflexion qui articulerait l'étude de la situation minoritaire des femmes dans le jazz avec celle de leur mode de présence, mode d'action, mode d'organisation, mode de jeu, etc. Quelle relation peut-elle, doit-elle se tisser entre la domination historique de l'ensemble des circuits de production et de diffusion du jazz par les hommes et l'émergence de logiques esthétiques, je le mets entre guillemets, c'est tiré d'un entretien de Stéphane Olivier avec Marie Buscato, de logiques esthétiques possiblement différentes, sinon féminines. Plusieurs communications, Ludovic Florin, Marie Buscato et le concert conférence donné par Chloé Caïton et Léo Malbrook tout à l'heure, occasionneront des questionnements autour des mécanismes d'alternatives créatrices où pourraient se lire et s'entendre la part prise par les femmes dans cette musique d'hommes. Les études sur le genre représentent un axe à part entière du laboratoire organisateur de cette journée, ICD, Interaction culturelle et discursive, auquel nous sommes plusieurs musicologues du département de Tours à appartenir. Pour autant, en tant que musicologue du jazz, pour ma part, s'étant jusqu'ici consacré à des répertoires variés et presque exclusivement masculins, je dois bien l'avouer, dans une perspective à la fois historique et analytique, j'ai bien conscience d'effectuer un pas de côté vers un domaine, les études féministes, ou centrées sur la question du genre, domaine à l'histoire déjà longue et à l'échelle du temps présent en tout cas, aux assises théoriques fournies et aux champs d'application très régulièrement élargis, pour former un corpus d'études déjà conséquent. Donc je limite ici l'illustration de cette réalité avec un échantillon représentatif des recherches les plus récentes touchant à la place des femmes ou plus largement à la question du genre dans la littérature, la musique et les autres arts, produits au sein de laboratoires universitaires français, pas uniquement le laboratoire ICD, dans les 5 dernières années. Je me limite ici, sur ces 2 diapositives, à des initiatives de journées d'études ou colloques. Donc, de ces 5 dernières années, y compris dans quelques-uns des mois à venir, avec notamment les 3 dernières manifestations mentionnées ici, dont 2 se tiendront à Tours. Posons donc nos pas dans les traces ouvertes par les spécialistes de ces questions féministes et des questions de genre depuis plusieurs décennies pour ce qui concerne les femmes dans le jazz. J'ai ici reproduit un certain nombre de références incontournables sur ces questions et faisons dialoguer avec nos grandes oreilles, pour paraphraser le titre de l'article de Sherry Tucker que je suis en train de traduire pour la publication de cette journée. Posons donc non pas dans ces traces, faisons dialoguer avec nos grandes oreilles les sciences humaines, les sociales et la musicologie. En dépit du format modeste de cette journée, chacun des termes retenus dans son titre prendra son sens, je l'espère, loin de toute prétention à l'exhaustivité, à travers la variété des traitements qui seront proposés par les intervenants, parmi lesquels, très malheureusement, nous fait défaut Anne Legrand, qui a annulé sa participation et qui devrait me faire parvenir des éléments précis qui me permettraient de lire une partie et de présenter une partie de son propos. Place des femmes, même s'il est question ici des femmes dans le jazz, les femmes envisagées, les musiciennes, mais pas seulement. La question du genre sera envisagée au sens large dans l'historiographie de l'entre-deux-guerres par Martin Guerpin. Pierre Fargeton se penchera pour sa part sur la place d'une activiste de la cause du jazz dont l'activité de critique a été éclipsée par la notoriété d'un mari très encombrant. D'hier à aujourd'hui, deuxième terme de la journée, il y a bien sûr un souhait d'ouverture chronologique qui viendra renforcer le croisement des disciplines et viendra épaissir la recherche des perspectives ouvertes par les contributions les plus tournées vers l'actualité, voire le devenir de la question. Tel est l'état des lieux qui vous est proposé aujourd'hui et qui sera modéré dans sa partie matinale par notre collègue professeur de littérature et membre du CD, Hélène Morel-Indard, que je remercie chaleureusement pour sa disponibilité. Au moment de l'invitation que je lui ai adressée, je ne connaissais pas je n'avais pas en tête la parution imminente de l'ouvrage qui vient de sortir sous sa direction, Femme artiste et écrivaine à l'ombre des grands hommes.
C'est le hasard.
Sans quoi je ne l'aurais pas simplement sollicité, je l'aurais supplié d'être parmi nous ce matin. Je voudrais terminer avec quelques remerciements indispensables. D'abord aux intervenants pour leur disponibilité, la richesse des propositions et les conseils parfois reçus dans la préparation de cette rencontre. Remercier le service culturel de l'université pour le soutien financier qu'il apporte à cette manifestation à travers la convention DRAC Centre Université, notamment pour permettre la tenue d'un concert-conférence qui aura lieu tout à l'heure à 15h30. Le laboratoire ICD, bien sûr, pour à travers sa directrice Elisabeth Gavoil et tout particulièrement Isabelle Cochet-Pémira, la secrétaire du laboratoire qui a pris en charge la logistique de cette journée. Isabelle Cochet, formidablement dévouée et efficace. Gilles Horry, notre technicien, logisticien, qui déploie les mêmes qualités avec une constance admirable. Et l'UFR, Arts Sciences Humaines, qui nous soutient de façon générale pour la musicologie, d'un point de vue pédagogique, comme au plan de la recherche, notamment dans la défense acharnée de notre potentiel humain, de nos enseignants, enseignants-chercheurs, personnel technique et administratif, fortement mis en danger par les restrictions en vigueur. Tout cela au service de nos étudiantes et de nos étudiants. Bon, merci enfin à Anthony Benito, notre étudiant de master, qui a donné un précieux coup de main pour la mise en place de cette matinée.
Concert, conférence, Super Jazz Woman, par Chloé Caïton et Guillaume Hasbrook au piano.
I'm Donc on vient de commencer.
Et à toutes, voilà.
Merci.
Bon, bon départ.
Merci François. Ravi d'être ici. Donc on a commencé par un morceau qui a été interprété par Mamie Smith. Donc voilà, un morceau historique puisqu'il date de 1920. Et il se trouve qu'à ce moment-là, Perry Bradford, qui est compositeur, chef d'orchestre et producteur, en fait, réussit à convaincre la firme OK Records d'enregistrer les premiers artistes donc noirs enregistrés. Et donc, c'est une femme, puisqu'il s'agit de Mamie Smith, donc, qui interprétait ce morceau qui s'appelle « That Thing Called Love ».
Yes. Excusez-moi,
mais
c'est pas du tout la photo.
Alors, tout le monde, on va y venir très très vite.
Alors, on est très très heureux de jouer pour vous. Après toute cette journée assez universitaire, c'est pas forcément un monde dans lequel nous on a l'habitude de jouer la conférence concert. Donc, peut-être aujourd'hui on va plus jouer des musiques et vous faire découvrir des portraits de musiciennes, de compositrices, d'interprètes qui sont restés un peu dans l'ombre. Les données, ben, je pense que vous les avez déjà entendues pas mal de fois, les chiffres de justement résultat de l'enquête là, qui a été menée au niveau national sur la présence féminine dans le jazz, qui ne bouge pas beaucoup. J'avais aussi envie de... Enfin, ce que je fais habituellement, j'évoque l'ouvrage de Marie Buscato parce que c'est quelque chose qui a été pour moi très, 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 très important, vraiment. J'ai eu l'occasion de lui dire, personnellement, mais en rédigeant un mémoire sur la question de la transmission du jazz vocal, je me suis plongée dans cet ouvrage et j'ai dit, c'est comme si quelqu'un avait presque écrit ma vie de chanteuse. Et c'est juste pour vous dire que voilà, quand on traverse toutes les situations dont elle a parlé, tous ces codes intériorisés, toutes ces, voilà, ces situations, ces confrontations, on pense que c'est normal. Et puis on se rend compte quand quelqu'un en parle que finalement c'était pas tout à fait normal ce qu'on a vécu. Et donc ça brasse beaucoup, beaucoup de choses profondes, intimes, ce livre. Donc si vous l'avez pas encore lu, eh ben, plongez dedans. C'est passionnant.
Voilà. De mon côté, en fait, ce concert-conférence qu'on a imaginé avec Chloé, il s'inscrit aussi dans mon histoire, parce que, donc m'intéressant au jazz depuis longtemps, je voyais les histoires du jazz, le grand public, présenter le jazz un petit peu toujours de la même manière, à travers des grandes figures masculines, pour la plupart, et un peu toujours le même... déroulé de grands solistes magnifiques, hein, Armstrong, Lester Young, Charlie Parker, John Coltrane, voilà. Et un petit peu lassé en fait d'entendre cette histoire, présentée souvent de la même manière. Je sais bien que ici on la raconte de diverses manières très inventives. J'ai voulu en fait l'aborder d'autres façons. Et donc j'avais créé un petit cycle de conférences qui s'appelait L'autre histoire du jazz et qui permettait en fait d'axer l'histoire en la racontant à travers par exemple la question de l'iconoclasme, donc des figures iconoclastes de l'histoire du jazz, des figures aussi liées au carnavalesque, donc à l'humour aussi dans le jazz. Et finalement, continuant à ça, s'est dit pourquoi ne pas raconter aussi ce qui sera une autre histoire du jazz, c'est-à-dire raconter l'histoire, mais simplement à travers des figures féminines, et ce qui ne pose aucune difficulté, puisque les femmes sont présentes à toutes les périodes de cette histoire.
Et ce n'est plus une history, mais une her story. Voilà. Simplement par rapport au titre qu'on a choisi c'était Guillaume qui avait intitulé ça Super Jazz Women. Vous voyez facilement à quoi ça peut faire référence, à tous les super pouvoirs qu'il faut déployer pour faire face à toutes les situations d'adaptation dans ce monde-là. Et puis avec une citation d'une musicienne qui s'appelle, qui s'appelait June Rottenberg, qui était une bassiste, dans les années 60, 70, elle dit « To be treated as equal, you better be very good. » Ok. Pas besoin de traduire.
Voilà, et puis c'était de dire que ce petit exposé, il ne sera pas exhaustif du tout. Donc on va évoquer différentes figures féminines, mais qu'on a choisies, voilà, avec Chloé, et on ne pourra pas toutes les évoquer.
Et puis vous en avez eu déjà pas mal d'exemples aujourd'hui aussi. Yes. Alors, il a été évoqué aujourd'hui les All Girl Band. Contrairement à... Non, vas-y, je t'en prie. Non, très bien. D'accord. Peut-être contrairement à ce qu'on peut penser, on pourrait penser que les groupes exclusivement féminins ont émergé aujourd'hui. Et bien, ça fait quasiment un siècle qu'ils existent et on trouvait déjà en 1884, ça a commencé avec, donc fin du 19e siècle, avec les Ladies Orchestra de Massachusetts. Donc dans les minstrel shows, on trouve des groupes tels que Madame Wren's Female Minstrels ou The Colored Female Brass Band. Dans les années 20, on trouve aussi The Parisian Redheads, venus d'Indiana. On trouve aussi The Ingenues, The 12 Vampires, Lillian Adams and Her Delusions. Voilà autant de noms fantasques pour ces groupes féminins. La prolifération des ensembles féminins est une réponse à la difficulté rencontrée par les femmes pour accéder à des places dans les orchestres établis, c'est-à-dire les orchestres masculins. Le fait de ne pas pouvoir intégrer ces orchestres, ou très peu, les conduisent à organiser les leurs. Cela leur vaudra parfois d'être dévaluées et considérées comme plutôt des novelty acts que des réels orchestres, ce qui fera dire à la clarinettiste Anne Dupont, souvent comparée à Artichaut, voilà, elle est comparée à un homme, qu'elle en avait fini avec les orchestres féminins, et elle fondera un orchestre exclusivement masculin qui rencontrera un certain succès pendant près de 8 ans.
Oui, donc Marie Buscato avait pu évoquer ça ce matin, c'est-à-dire ces orchestres exclusivement féminins qui rencontrent un certain succès, qui permettent du coup de vivre à ces musiciennes, mais qui s'accompagnent en fait d'une dévaluation de leur travail qui n'est pas pris au sérieux. Et pourtant, on a voulu en fait vous présenter une petite vidéo, un extrait d'un groupe qui s'appelle The International Sweethearts of Rhythm. Un groupe des années 30-40 qui était l'égal des groupes de Duke Ellington ou Count Basie, qui s'est produit en double plateau d'ailleurs avec ses orchestres. Et on le voit en fait sur cette petite illustration que ces musiciennes ont dû se battre sur un triple front. Le front, donc c'était un orchestre issu d'un collège, d'une école américaine qui accueillait des jeunes filles de différentes nationalités, d'où le titre du groupe. Et elles ont dû se battre sur un triple front, donc le front de la race, pour se faire accepter, puisque c'était noire ou mexicaine, enfin voilà, différentes nationalités, ou chinoises. Le front, évidemment, du genre, se faire accepter comme musicienne, et puis aussi celui de l'orientation sexuelle, puisque certaines affichaient leur homosexualité. Donc un orchestre finalement assez précurseur, enfin en tout cas, voilà. Donc International Street of Jump
Children. vous plaît. Ouais, les orchestres exclusivement féminins, ben, voilà, si je peux juste témoigner, moi j'ai fait partie d'un orchestre exclusivement féminin pendant une dizaine d'années. On jouait des percussions, on dansait, on chantait, c'était autour de la musique afro-brésilienne, mais simplement pour dire que c'était extrêmement difficile de dépasser le fait que c'était un orchestre féminin, et on avait beau chercher une identité artistique, quelque chose, voilà, d'essayer de faire ressortir uniquement l'artistique, en fait on nous renvoie constamment au fait que, et puis c'est aussi à des moments pour ça qu'on joue, c'est aussi pour ça qu'on se produit, c'est, vous êtes un orchestre de femmes, donc yes, des fois on aimerait non, juste être là pour nos qualités artistiques d'abord.
On a choisi ensuite d'évoquer de manière un peu croisée deux figures du piano jazz. D'un côté, Hazel Scott. Hazel Scott, c'est une pianiste virtuose qui a rencontré un certain succès. Elle a été aussi appelée par Hollywood, elle a pu figurer dans certains films. Elle se produisait aussi au Café Society, qui était un peu un lieu de l'intelligentsia et de la contre-culture américaine. Et donc on a choisi donc une particularité d'Hazel Scott, elle était connue pour le fait de jazzifier le classique, c'est-à-dire de prendre des morceaux du répertoire classique et les jouer dans une version de jazz. Là, ce qu'on va entendre, c'est l'inverse, puisqu'elle part d'un standard qui s'appelle Taking a Chance on Love, et qu'elle interprète d'abord de manière, c'est pareil si on peut essentialiser les choses, de manière un peu classique, pour ensuite l'interpréter de manière plus jazz. Très importante, c'est celle de Mary Lou Williams. Mary Lou Williams, pianiste, arrangeuse, compositrice, qui est une musicienne de la stature qui n'a rien à envier à Duke Ellington, notamment. Toutefois, quand on lit sa biographie, on se rend bien compte qu'elle a passé toute sa vie finalement à trouver les moyens de faire vivre sa musique. Et donc elle n'a pas eu les mêmes opportunités que ses confrères. Voilà. Donc pour autant, elle a un peu une palette d'expression extrêmement large qui va du blues. Elle a écrit des grandes suites aussi, notamment la Zodiac Suite, qui est une pièce très, très impressionnante en fait du répertoire, et qu'elle aura vraiment du mal à enregistrer. Elle a enregistré une version en trio, et puis il y a eu un début de version orchestrale, mais qui a été avortée par manque de moyens. Et quand on entend l'enregistrement, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de temps de répétition qui lui a été offert pour mener à bien ce projet. Elle a aussi eu, comme Ellington, elle a composé tout un versant sacré, en fait, de musique sacrée. Je vous propose de l'écouter dans un blues en solo qui s'appelle... Blues. Ça va m'en venir. Rapidement à la figure de Mary Lou Williams pour évoquer un phénomène dont tu as parlé ce matin, qui est le phénomène de l'invisibilisation du travail des femmes. Donc le fait de.
Voilà.
L'histoire masque les inventions de certaines femmes.
C'est un phénomène qu'on retrouve, bah, évidemment, pas que dans le champ de la musique, du jazz, mais on retrouve ça aussi dans le champ de la recherche universitaire. Alors, il y a quelques temps, j'étais tombée sur une émission où c'était une chercheuse qui s'appelle Nathalie Heinlich, ouais, qui prenait la parole et qui parlait de ce phénomène-là. Ça a fait écho tout de suite pour moi à cette histoire de paternité reconnue ou non, dans l'ombre de certaines compositrices. Alors, bah, par exemple, dans le domaine universitaire, ça prend la forme de l'absence de citation, de minimisation d'influence, de repli d'antériorité, de bibliographie lacunaire. Et on retrouve ça aussi dans le
jazz. Oui, voilà. C'est Claire, pardon, qui a évoqué ce phénomène-là tout à l'heure. On a simplement, voilà, donc il y a Mary Lou Williams en 1936 écrit, compose un morceau qui s'appelle Walking and Singing, joué par l'orchestre d'Andy Kirk. Dans cet enregistrement, il y a ce qu'on appelle un spécial, c'est-à-dire une mélodie qui vient redonner un petit peu du dynamisme au discours en milieu de morceau. Et donc j'ai choisi de vous faire écouter l'original d'abord, et ensuite de vous faire écouter trois exemples successifs. Donc le premier c'est Charlie Christian, le deuxième c'est Al Haig, le troisième c'est Thelonious Monk. Et là on se rend compte que finalement ces trois musiciens ont repris textuellement cette mélodie. Par contre ils ont oublié de citer qu'elle appartenait à Marilyn Williams. Voilà. Et ils l'ont allègrement renommée. Pardon, excusez-moi, c'est pas celui-là.
D'avoir une ambition théorique. Voilà. Donc, juste, je vous cite, hein, je cite ces mots. Cependant, je ne me considérais pas comme philosophe. Je savais très bien que mon aisance à entrer dans un texte venait précisément de mon manque d'inventivité. Dans ce domaine, les esprits véritablement créateurs sont si rares qu'il est oiseux de me demander pourquoi je n'essayais pas de prendre rang parmi eux. J'ai déjà dit que la condition féminine ne dispose pas à ce genre d'obstination. On voit bien de quelle manière elle s'efface et elle intériorise l'idée que créer le concept, c'est pas pour elle. Alors, on peut faire le parallèle aussi dans la musique. C'est comme si... moi j'ai un peu, par exemple, évolué avec une idée, évidemment, fausse, mais n'empêche que bien intériorisée, que... les femmes, les chanteuses, c'était le monde de l'interprétation et de la mélodie, puis les hommes, c'était la compo, quoi, la composition. On voit bien comment les mondes sont clivés.
Et du coup, on voulait mettre en parallèle cette citation de Simone de Beauvoir parlant de Sartre, avec un extrait d'une interview. Donc c'est Alice Coltrane qui est interviewée, et on lui demande de citer, de dire quelle est. Dans ce qu'elle a écrit, la composition de sa plume qu'elle préfère. Et la réponse d'Alice Coltrane est édifiante, puisqu'elle répond aucune, mais par contre toute l'œuvre de John. Et voilà, donc il faut que la journaliste lui insiste pour qu'elle finisse par parler d'une composition à elle qui s'appelle Préma. On avait envie sans plus de commentaires, parce qu'on a parlé d'essentialisation aussi ce matin, et donc on trouvait que cette vidéo était assez parlante.
Non, j'allais dire, je redis un peu de manière assez grossière quelque chose qui a déjà été dit, mais voilà, est-ce qu'il y a une manière de jouer féminine pas, voilà, tu joues comme un mec, tu joues comme une femme, j'en sais rien, je sais pas. Au début, je pensais que oui, puis en fait, finalement, bah non. On prenait les saxophonistes Géraldine Laurent et Lisa Calbero, Alexandra Grimal, qui sont des musiciennes aujourd'hui. Pour moi, c'est juste il y a autant de manières de jouer que d'individus. Et vous nous direz ce que vous en pensez en voyant cette séquence.
Terry Pollard, qui était aussi une grande pianiste. Et en fait, le groupe de Terry Gibbs, donc vibraphoniste également, Alice Coltrane et Terry Pollard se sont succédés en fait dans ce groupe.
Des réactions ? Non ? Ça vous touche, ça vous plaît, ça vous évoque quelque chose ?
Ben, on voit que les hommes arrivent à jouer aussi bien.
C'est ça ?
Mais oui.
À nouveau.
Un autre portrait, celui d'une tromboniste, compositrice, arrangeuse, chef d'orchestre, qui s'appelle Melba Liston. Je ne sais pas si vous avez lu le bouquin de la Baronne Panonica sur les trois vœux des musiciens. C'est, voilà, il y a cinq femmes ou six femmes interviewées dans ce livre sur les, je sais plus, 200 musiciens. Et c'est la seule à revendiquer dans ses trois vœux un traitement égalitaire homme-femme. Donc la question est pas non plus, fait pas l'unanimité chez les femmes musiciennes. Il y en a qui l'évacuent. Voilà. Et il y en a d'autres qui revendiquent.
Ça peut se tenir, enfin c'est une supposition, mais ça peut tenir aussi au statut des musiciennes. C'est-à-dire que Melba Liston était arrangeuse, compositrice. Mais je pense qu'elle était surtout side woman. Et tout à l'heure, on parlera de Carla Bley, dont tu as déjà parlé. Et peut-être que le discours change aussi suivant que les musiciennes sont les doses de projet ou celle de vous-même, peut-être que voilà, c'est une supposition. On avait envie, pour évoquer la figure de Mel Ballyston, de donner la parole à Gerald Wilson, donc grand chef d'orchestre, avec un orchestre qui a une assez grande longévité, et qui parle, donc qui fait l'éloge de Mel Ballyston, et qui explique qu'il n'a jamais tenu compte de la couleur de peau ou du genre pour embaucher des musiciens ou des musiciennes.
I've always chosen people for their musicianship regardless of their gender and their color. It had nothing to do with it. In my first band, I had a young Mexican trombone player. I also had a young lady who played trombone. Her name, of course, Melba Liston. Melba, an accomplished musician. At the time that I met her, she was playing lead trombone and solos in the Lincoln Theater Orchestra. With Bobby Wella, Melba Liston attracted me right away with her great playing and her great musical ability. She could write, she could arrange, she could orchestrate. She could do it all. And she had heard of me, and she wanted to be in my band. I've always chosen people for their musicianship, regardless of their gender and their color. It had nothing to do with it. In my first band, I had a young Mexican trombone player.
un peu abrupt. Nous continuons notre galerie de portraits par une musicienne qui a déjà été évoquée ici, Carla Bley. Musicienne incontournable, voilà. Si on en parle deux secondes, si on en parle une heure, je voudrais dire juste une chose, parce que c'est quelque chose qui me touche dans sa musique. Et je pense, c'est l'économie de moyens, en fait. C'est une musicienne, il y a une anecdote que j'aime beaucoup qu'elle relate. Enfant, elle est avec son père et puis elle se met à dessiner des notes, enfin des points sur une portée musicale. Et puis elle montre cette partition à son père et elle lui demande est-ce que c'est de la musique? Et son père lui dit non, il y a trop de notes. Et donc elle prend une gomme et elle efface certaines notes et elle représente la partition à son père qui lui dit oui, là c'est de la musique. L'anecdote est charmante, mais je trouve que ça dessine aussi un sillon, en fait, on peut y voir. Mais cette source, en fait, on peut la voir aussi chez Count Basie, parce que c'est une grande admiratrice de Count Basie. Et je pense que sa plume aussi doit à énormément de sources, parce que c'est une musicienne qui s'inspire de Count Basie, d'Ellington, de Kurt Weill, de musique extra-européenne, du rock, de la pop, donc c'est une palette extrêmement large. On a choisi de vous jouer un morceau tiré de l'album Tropic Appetite, et c'est une comptine qui s'appelle Funny Bird Song.
ça s'appelait.
Vous fumiez le concert, en fait.
Ok, bah oui, on finit en concert. On finit en concert. On voulait vous montrer. Alors, au moment où on a écrit cette conférence, on s'est intéressé à Marie Halvorsen. Et on n'aurait jamais pensé jouer la conférence le lendemain de son concert. Et en fait, si. Et donc, peut-être parmi vous, il y en a qui étaient au concert hier soir.
Qui était au concert hier soir?
Ok. Super. Parfait. Et pour ceux qui n'étaient pas au concert hier soir, peut-être on vous laisse découvrir qui est Marie Halvorsen.
I'm de votre participation future. Enfin, voilà, on est là pour échanger.
Juste avant de finir.
Oui.
Moi, je suis très très intrigué.
Oui.
Des Esperanza.
Ah.
Oui.
Ok. Bah. On a le temps, Vincent.
Comment?
On a le temps d'une dernière vidéo.
Une dernière petite séquence.
Oui, parce que c'est vrai que c'est un...
C'est désespérant.
C'est désespérant. Bah, vous allez comprendre pourquoi.
Oui.
Disons, c'est des images qu'on ne verra plus.
Au Centre de musique Didier Lockwood, et je vois beaucoup de jeunes étudiants, étudiantes, chanteurs, chanteuses, musiciens, musiciennes, qui ont entre 20 et 30 ans. Et j'ai le sentiment, en fait, en voyant ça de l'intérieur, que ça bouge. ça bouge, c'est vrai. Peut-être à l'échelle plus des individus, mais j'ai le sentiment que les groupes sont un peu plus mélangés et que, de toute façon, il n'y a qu'en montrant des modèles, les modèles dans leur diversité, quoi, ne pas toujours avoir les mêmes modèles qui inspirent les jeunes aspirants, aspirantes de demain. Il y a aussi comme ça qu'on peut-être peut essayer de faire un peu bouger les représentations.
Les femmes dans le jazz d'hier à aujourd'hui, état des lieux, perspectives de recherche. C'était une journée d'études proposée par le laboratoire ICD, Interaction culturelle et discursive de l'Université de Tours. Cette journée était organisée par Vincent Cotreau, département de musique et de musicologie, et modérée par Hélène Morel-Indard. Nous remercions Vincent Cotreau, Madame Pémira et l'ensemble des invités et nous ont permis de rediffuser les enregistrements de cette journée d'études réalisée par Jean Horry du service audiovisuel du département de musique et de musicologie.